Donc, je disais qu'on touche à un sujet d'importance capitale pour chacune de nos vies, c'est l'espérance. L'être humain peut-il vivre sans espérance? Impossible. Impossible. On pense à ces pauvres gens en Ukraine qui sont bombardés constamment par les missiles et les bombes russes. Et on se dit comment faire pour continuer de vivre sous une telle pression, sous une telle menace et sans aucune certitude du lendemain. Hein? Et c'est ça qui est tellement difficile pour l'être humain, de vivre sans espérance d'un lendemain meilleur, n'est-ce pas? On a commencé cette série il y a plusieurs semaines maintenant et on a un verset thème. Est-ce que vous vous rappelez du verset? Est-ce que certains l'ont appris par cœur? Non? Je vous encourage à vraiment l'apprendre par cœur parce que quand vous l'aurez appris par cœur, vous pourrez méditer sur le verset. Et c'est quand on médite sur le verset, quand on médite sur la parole de Dieu, que vraiment là, ça porte fruit dans nos vies. Fait que je vous incite à venir le dire avec moi ce matin encore une fois, que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Quand je me réveille trop tôt le matin, puis je suis anxieux, ça peut arriver, hein? Je suis anxieux, ça peut arriver qu'on soit anxieux. Quand je me réveille trop tôt le matin, là, je pense à ce verset-là, je médite ce verset-là, que Dieu qui est l'auteur de l'espérance, Dieu, tu es l'auteur de l'espérance. Il veut me donner sa joie, sa paix par ma confiance en lui, ma confiance en lui. Il veut que mon cœur déborde d'espérance. Fait que je vous invite là, à faire de même. Comme ça, ben, on ne sera pas tout seul dans notre insomnie. Donc, la série s'intitule « Qu'attends-tu de ton avenir? » Quelle espérance as-tu vraiment pour l'avenir? C'est une drôle de question, hein? Ça touche à quelque chose de profond, là. Ça révèle nos aspirations, nos attentes profondes. Puis je me suis mis à poser cette question-là aux gens dans mon bureau. Je suis médecin, pas tout le monde, là, mais à l'occasion. Les gens qui traversent des difficultés, des fois je leur dis, quelle est votre espérance? Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Et j'écoute. Et c'est intéressant. C'est intéressant d'entendre ce que les gens vont dire. En as-tu une? En as-tu une vraiment? Et sur quelle base fondes-tu ton espérance? Sur quelle base? Dans cette série, on a vu à date que l'être humain, c'est impossible pour l'être humain de vivre sans espérance. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais l'espérance que se donne l'être humain est illusoire. Pourquoi? Parce que l'espérance traite de l'avenir. Et l'être humain, sa connaissance de l'avenir est limitée et son pouvoir de contrôler les événements est incomplète. Elle est imparfaite. Et donc, toute espérance est en quelque sorte illusoire, pas vrai? Mais on ne peut pas vivre sans espérance. Fait qu'on se donne des espérances. On se donne des attentes. Dieu seul est l'auteur d'une réelle espérance. Et il désire te donner cette attente certaine d'un avenir assuré. C'est ça la définition de l'espérance dans la Bible. On peut avoir une espérance séculière, mais l'espérance que donne la Bible, que Dieu veut te donner, qu'on a vu dans le verset, là, c'est une attente certaine d'un avenir assuré. Comment ça se fait? Comment ça se peut? Parce que Dieu connaît tout de l'avenir et il contrôle tout. Donc, c'est le seul qui peut te donner une espérance certaine. Le seul. Paul dit à des chrétiens dans son épître, je ne me rappelle plus quelle épître, mais rappelez-vous à ce moment-là, quelle épître, Jean-Claude? Je t'enfonce une colle, hein? Excuse-moi, mon frère. Et il dit, rappelez-vous que dans ce temps-là, vous étiez sans Dieu dans le monde et sans quoi? Sans espérance. Mais l'être humain ne peut pas vivre sans espérance. Mais Dieu veut te donner une espérance, une attente certaine d'un avenir assuré pour que ton cœur soit dans la paix et dans la joie. Wow! Quel Dieu, quel bon Dieu nous avons! Pas vrai? Il veut te donner cette espérance-là. Dieu seul est l'auteur d'une réelle espérance et une attente certaine d'un avenir assuré. Quelle est l'espérance du chrétien? On a vu deux choses à date. Première chose, c'est l'espérance d'un corps ressuscité et transformé. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Hein? Puis on a dit, une des choses qui nous rend tellement malheureux, c'est la vieillesse, c'est de voir notre corps changer avec le temps, c'est de se regarder dans le miroir et dire, « Oh boy, j'ai changé, hein? J'ai plus 20 ans, j'ai plus 30 ans, j'ai plus 40 ans. » Ouais, ça fesse. Puis les millions, les milliards de dollars que les êtres humains dépensent sur les cosmétiques, sur les chirurgies plastiques, esthétiques, sur les soins corporels, sur tout ça, sur les cheveux, tout ça pour ralentir le vieillissement ou tout de moins apparaître plus jeune, pour ralentir le vieillissement d'un corps qui va inévitablement vers la mort. On a vu mon beau-père en semaine passée, on l'a visité, pour certains qui le connaissent, M. Bottery. Il est rendu à 98, il va avoir 99 en octobre. On dit « Wow! » Lui, il ne dit pas « Wow! » Lui, il ne dit pas « Wow! » Lui, il dit « J'ai 88 ans, 98 ans. » On dit « Oui. » Ouf! Lui, il voudrait partir. Le Seigneur ne l'a pas oublié. Mais c'est, ouais, on dit ça des fois, mais peut-être qu'il lui, il peut avoir l'impression que le Seigneur l'a oublié, effectivement. Mais le Seigneur, il a des plans pour chacun de nous, puis des fois, il se sert de nous, malgré nous, pour la vie des autres. Ça nous confronte à notre propre réalité, et ça nous amène à exercer la compassion, l'amour. Alors le Seigneur se sert encore de lui. Mais l'espérance d'un corps ressuscité, transformé, basé sur la résurrection de Jésus-Christ, hein? Tout est basé sur la résurrection de Christ. Si Christ n'est pas ressuscité, vous avez cru en vain et vous allez mourir dans vos péchés et vous allez rester dans vos péchés pour l'éternité. Mais Christ nous apporte l'espérance d'une résurrection, d'un corps ressuscité, transformé. On a vu ça. Si ça vous intéresse, allez écouter les enseignements. Deuxièmement, on a vu l'espérance d'hériter un royaume, le retour de Christ. Christ revient, il va balayer tout le système politico-religieux de la terre pour établir son règne et nous allons participer, ceux qui croient en lui, qui ont reçu le don de la vie éternelle par Jésus-Christ, vont régner avec lui. Parlez d'une espérance. Wow! Vous savez, quand est-ce qu'on se met dans le trouble, frères et sœurs? C'est quand on fonde notre espérance sur d'autres choses. C'est là qu'on se met dans le trouble. Quand on a des attentes envers la vie, quand on a des attentes envers nos proches, notre conjoint, notre conjointe, on a des attentes envers notre employeur, on a des attentes envers nos frères et sœurs, c'est là qu'on se met dans le trouble. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas répondre. C'est le fun quand ça répond. Mais ils ne peuvent pas. C'est là qu'on se met, c'est là que je me mets dans le trouble. Lorsque je base ma paix et ma joie sur d'autres attentes, d'autres fausses espérances, que cette espérance-là que Dieu veut me donner, que Dieu veut te donner. Et c'est ça qu'il faut réaliser, c'est ça qu'il faut que ça descende dans notre cœur. Cette espérance que Dieu veut me donner, il faut que je m'accroche à ça. Il faut que je m'accroche à ça. Ce matin, nous allons commencer la dernière section, la troisième et la dernière section de notre série sur l'espérance du croyant. Et j'espère que tu vas voir comment Dieu répond ultimement à ses aspirations, ses désirs profonds de ton cœur à travers l'étude de la parole. À date, on a vu ces deux éléments-là et on va procéder à la troisième. La troisième, c'est l'espérance d'une relation d'intimité épanouie avec le Christ pour toujours dans sa présence glorieuse. Prions. Éternel notre Dieu, merci pour ce temps béni, Seigneur, que nous passons en ta présence, justement, par ton esprit. Et Seigneur Dieu, on veut se tourner ce matin vers toi, on veut se courber devant toi pour reconnaître qui tu es, Seigneur, le Dieu créateur souverain du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, le roi de gloire. Seigneur, on veut être à ton écoute ce matin. On te demande, Seigneur, de chasser toute autre voix que la tienne. Et de nous donner d'entendre ta douce voix, Seigneur Jésus, qui nous parle ce matin par ta parole et ton esprit, pour la gloire de Jésus, Père. Amen. David dit dans les psaumes, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. » Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Le cœur humain est constamment à la recherche de quelque chose qu'il n'arrive à jamais retrouver sur terre. Et ça, c'est un principe fondamental. C'est une vérité fondamentale de chaque être humain. Le cœur est constamment à la recherche de quelque chose qu'il n'arrive jamais à retrouver sur terre. Le cœur humain n'est jamais satisfait, pas vrai? Jamais satisfait. Il en veut toujours plus. Ses désirs sont insatiables, sont à l'infini. Par contre, tout ce dont il peut jouir sur la terre est fini, est limité dans le temps. Que ce soit des loisirs, des activités sportives, des passions, des plaisirs de toutes les sortes, des mets succulents, tout est limité dans le temps. D'une autre part, les êtres humains sont souvent épris d'émotion devant la beauté de l'infini, pas vrai? La grandiosité de la nature, le Grand Canyon, un soleil couchant sur l'océan à l'infini, les étoiles, les aurores boréales, tout ce qui est infini, qui est grandiose, suscite une émotion, même chez les gens qui se disent non-croyants. Ils sont prêts à dire que oui, il y a quelque chose qui vient les chercher. Il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur quand ils sont devant l'infini. Comme si le cœur humain était fait pour être en extase devant la beauté de l'infini. Mais tout ce qui est beau dans la nature et qui captive et qui le façonne ne dure pas. Imaginez que vous vous retrouvez devant le coucher du soleil le plus magnifique de tous les temps sur un océan vaste et calme. Vous êtes dans un endroit paradisiaque, une île au milieu de nulle part, entourée d'une nature magnifique, un milieu paisible et sécure, loin de tous les tracas de la vie. La brise de l'océan vous caresse la peau. Et vous êtes envahi par un sentiment de bien-être total, à tel point que vous voulez que ce moment-là dure pour toujours. Hélas! Hélas! Le soleil se couche et c'est terminé. Tu aurais souhaité que ça dure toujours. Pourquoi? Parce que le cœur humain soupire après l'infini. Imaginez encore que vous êtes dans cet endroit le plus merveilleux au monde. Si vous y retrouvez seul, votre cœur va soupirer pour pouvoir partager cette beauté avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'être humain est aussi relationnel. Donc, l'être humain soupire après l'infini et l'être humain est relationnel. C'est pourquoi seule une relation avec un être infini peut combler ton cœur. Et c'est ce que David exprime ici dans le psaume 27. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Vous savez que les gens voyagent de partout dans le monde pour voir la grandeur, la splendeur du Grand Canyon? Et ils sont là, ils sont émerveillés. Moi, j'ai eu le privilège d'y aller il y a quelques années. Et je suis là, tu es « Wow! » Et là, tu restes là longtemps. Tu restes, tu regardes longtemps, longtemps. Dieu, là, est infiniment plus grand, infiniment plus beau, infiniment plus puissant que le Grand Canyon. Quel serait le privilège d'être devant ce Dieu pour l'éternité à contempler? C'est comme si tu étais devant le plus beau coucher du soleil dans l'endroit le plus paradisiaque et que ce spectacle ne prendrait jamais fin. Et de plus, le soleil, là, c'est Dieu. C'est Dieu, tu peux être en relation avec lui. Ce n'est pas un objet inanimé, c'est un être. Wow! On n'a pas d'idée. On n'a pas d'idée. Mais Dieu nous révèle dans la parole, c'est quoi? C'est ça le privilège qu'on a ce matin, frères et sœurs. La révélation. Paul dit dans Éphésiens 1, il dit, « Je prie que Dieu vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » C'est une révélation de l'esprit que Dieu veut te donner ce matin, mon frère et ma sœur. Et je prie ça pour moi et je prie ça pour vous. Que Dieu vous donne cette révélation de l'espérance à venir. C'est important. Paul dit que c'est l'ancre pour notre âme, cette espérance-là. C'est l'ancre de ton âme. Et si tu n'as pas d'ancre, tu vas être misérable. Tu n'auras pas de paix. Tu vas vaguer sur les vagues. Tu vas être emporté par les vents, les vagues des événements de ta vie. La personne la plus merveilleuse, l'être le plus spectaculaire qui soit et qui en plus t'aime d'un amour le plus tendre, qui te connaît le plus intimement car il t'a créé et qui te laisse entrer dans sa présence glorieuse, c'est ça qu'il veut t'offrir. Ce sera beau, ce sera merveilleux, et plus tu vas t'en approcher, plus ça va devenir beau et merveilleux. C'est ça. Ça ne sera pas le contraire. Sur cette terre, les choses diminuent avec le temps. Tu es là devant le Grand Canyon, puis au bout de 3-4 heures, OK, ça suffit, on va-tu prendre un café? Ça diminue avec le temps. Mais non, lui, c'est le contraire. Plus tu vas être en sa présence, plus tu vas voir, waouh, et waouh, et waouh, ça va être encore plus merveilleux. J'ai donné cet exemple dernièrement, et je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais imagine qu'un des bandes les plus célèbres de tous les temps débarque dans ta ville. Ton band préféré, les Beatles, Pink Floyd, ou ton band préféré, là, moi, je suis une autre génération, là, je ne les connais pas, là, Green Day, ou je ne sais pas trop, là. Imagine ton band préféré débarque en ville. Imagine le privilège d'avoir un billet pour assister à ce spectacle. Déjà là, c'est quelque chose, là, hein? Wow, tu vas en parler à tous tes amis. Imagine maintenant que tu rencontres le fils par hasard. En ville, tu rencontres le fils du leader du band et tu deviens ami avec lui. Et il t'amène non seulement sur le site, mais il t'amène backstage, dans les coulisses, pour rencontrer le leader du band, son père. Imagine que cet homme se prend d'affection envers toi et fait de toi son ami. Et là, le soir venu, tu assistes à tout le spectacle sur le côté du stage en admirant ton idole. Tu es fou de joie. Tu n'arrives pas à croire ta chance. Tout le monde connaît cette star à travers le monde entier, mais lui, il te connaît. Ah ah! Tout le monde le connaît, mais lui, il te connaît. Est-ce que tu es connu de Dieu? Tout le monde connaît Dieu. Mais est-ce que tu as été connu de Dieu? Tu peux seulement être connu de Dieu à travers Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Il faut que tu traverses par Jésus pour venir à Dieu, pour être connu de Dieu. Alors imagine-toi ta joie. Tu es fou de joie, t'en reviens pas. Tout le monde connaît cette star, mais toi, tu es connu de lui et t'as admis en sa présence et il t'accepte comme ça, un membre de sa famille maintenant. Cela, c'est un pâle reflet. Un pâle reflet de ce que ce sera de se trouver pour toujours dans la présence glorieuse de Christ, pour contempler sa gloire et jouir d'une relation d'intimité épanouie avec lui. C'est rien à côté de ça. C'est rien. Et c'est ça le plus merveilleux des aspects de l'espérance chrétienne. C'est d'être en sa présence. Ce n'est pas le corps ressuscité, ce n'est pas le royaume, mais même si ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux, mais le plus merveilleux, c'est d'être à sa présence pour toujours et de jouir d'une relation sans entrave avec Jésus-Christ. Amen. Jésus, la nuit de sa trahison, prie pour ses disciples, ceux qui le suivaient, mais aussi pour ceux qui viendraient après lui. Et voici ce qu'il demande au Père. « Père, mon désir, c'est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi où je serai et qu'ils contemplent ma gloire. Celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Wow! Jésus a prié pour toi, mon frère, ma sœur. Si tu es un disciple de Jésus-Christ, il faut le devenir. Mais si tu es un disciple de Jésus-Christ, il a prié pour toi pour que tu sois admis dans sa présence glorieuse pour contempler sa gloire pour toujours. Ça, là, c'est comme si le leader de ton band préféré t'invitait chez lui pour rester pour toujours. Puis ça dépasse de loin, ça. Ça dépasse de loin. Est-ce que tu anticipes ça? Est-ce que ça rentre dans ton esprit? Est-ce que ça devient, ça fait partie? J'espère que cette espérance-là, là, à travers cette série-là, ça commence à pénétrer ton âme, mon frère, ma sœur. Ça commence à rentrer dans ta tête, là. C'est ça l'espérance. C'est à ça que je dois m'accrocher. Pas à ce qui va arriver la semaine prochaine, le mois prochain ou dans un an. Pas à ce qui va arriver dans ma relation avec mon conjoint, ma conjointe, pas à ce qui va arriver dans mon travail, pas à ce qui va arriver dans mes vacances, pas à tout ça, pas à ce qui va arriver avec mes petits-enfants, pas tout ça. C'est beau tout ça, mais c'est passager. Et ça nous déçoit. Ça ne peut pas être ça. C'est impossible. J'espère que ça commence à descendre. Et sais-tu quoi? Plus tu investis dans ta relation avec Jésus maintenant, tous les jours, plus tu auras hâte de le voir et de passer l'éternité avec lui. Pas vrai? C'est comme quand on se fréquentait, ma femme et moi, elle demeurait à Ottawa, puis moi j'étais à Montréal, et que j'avais hâte. Mais là, on s'écrivait, il n'y avait pas de texto dans ce temps-là, pas de courriel. On s'écrivait, puis on recevait nos lettres, mais on avait hâte de se voir en personne. Puis plus on écrivait, plus ça devenait intime, plus on avait hâte de se voir. C'est la même chose. Plus tu vas investir dans ta relation avec Jésus-Christ, plus tu auras cette espérance vivante de le voir. Plus ce sera pour toi le ciel. Je me répète. Plus ce sera ça pour toi, le ciel, d'être en présence de Christ, sa présence glorieuse, majestueuse, magnifique, aimante. John MacArthur dit que lorsqu'on parle du ciel aux gens, on fait face à deux conceptions erronées. Et c'est peut-être vrai pour toi ce matin qui écoute cet enseignement. La première, c'est que ce sera un lieu rempli de tous les plaisirs charnels du monde, mais sans limite. Boire sans limite, manger sans limite, le sexe sans limite, fêter avec ses amis, etc. Ça, c'est ça le ciel. Mais comme on a vu, ces choses ne comblent jamais le cœur humain, même s'ils sont illimités. Cette conception de l'état éternel est centrée sur soi et n'a rien à voir avec Dieu. En fait, pensez-y. Pensez-y, si tu pouvais avoir tout ce dont tu voulais au monde, être entouré de tous tes êtres chers pour l'éternité, mais comme quelqu'un a dit que le Christ n'y serait jamais, est-ce que tu penses que ce serait ça le ciel? Pour avoir tout ce que tu veux, entouré de tous tes êtres chers, mais Christ n'est jamais là. Jamais. Tu ne le vois jamais, là. Fini. Est-ce que c'est ça, le ciel? Et si pour toi, c'est ça, le ciel, non seulement tu te trompes royalement, mais tu ne connais pas Dieu et tu n'y seras pas. Parce que le ciel, c'est la demeure de Dieu, en premier lieu. La définition du ciel, c'est là où Dieu habite, c'est là où son trône est. C'est ça le ciel. Souvent, les gens vont dire qu'ils ont hâte d'aller au ciel parce qu'ils ont hâte de revoir leur conjoint ou leurs parents ou un ami ou un enfant. Mais le ciel est d'abord la demeure de Dieu. Imagine-toi rentrer chez quelqu'un. Imagine-toi que quelqu'un rentre à ta maison parce qu'il savait que son chummy était chez toi. Il rentre, il ne salue même pas, tu ouvres la porte, il passe tout droit. Il va saluer son ami, il se met à jaser avec son ami, puis à parler, puis t'ignorer complètement. Comme si c'est toi l'étranger. Penses-tu vraiment être capable de faire ça dans la maison de Dieu? Dans la maison de mon père? C'est mieux d'y réfléchir. Ça nous amène à une autre fausse conception sur le ciel, c'est que si c'est la demeure de Dieu, c'est plate à mort. Je veux rien savoir. J'aime mieux être en enfer avec mes chums qu'au ciel avec Dieu puis une gang d'hypocrites. L'avez-vous déjà entendu celle-là? Oui, je l'ai déjà entendu, moi. Que c'est plate à mort. Cette réaction est celle de la personne qui ne connaît pas Jésus et son amour pour lui, qui n'a jamais rencontré Jésus, qui n'a jamais su pourquoi Jésus est venu sur la terre pour nous révéler qui est Dieu. Il nous a montré qu'est-ce que Dieu est. Qui est Dieu? Parce que l'être humain ne connaît pas qui est Dieu. L'être humain s'est éloigné de Dieu depuis le début, à tel point de ne plus croire à son existence et d'être complètement ignorant à propos de sa nature réelle. Jésus nous a montré à quel point Dieu veut restaurer la relation entre toi et lui. Dieu a envoyé Jésus pour prendre sur lui toute la pénalité de tes péchés qui te séparaient d'avec lui et t'offrir le pardon et une relation intime avec lui. C'est ça que Jésus est venu faire. Et c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle pour te remettre en relation. L'Évangile. Et quand on est en relation avec Jésus, quand on est en relation avec Dieu, plus on passe du temps avec, plus on trouve merveilleux, plus on a hâte d'être en sa présence. Pas vrai? Mais l'Évangile comporte un aspect d'avenir, un aspect non réalisé encore. Il y a cette notion de déjà, mais pas encore. Tu es déjà en relation avec Dieu, mais tu vas être encore plus en relation avec Dieu. Tu es déjà sauvé, mais tu vas être encore plus sauvé, sauvé de la présence du péché, sauvé de la puissance du péché. Il y a cette notion dans la parole de Dieu, déjà, mais pas encore. Dans tous ces aspects, tous ces effets ne sont pas encore complètement réalisés. Elles comportent une promesse, l'Évangile, celle d'une relation épanouie, sans entrave avec le Christ. Sur cette terre et dans ce corps, la relation avec Dieu est limitée. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, il dit, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. » Dans le temps, les miroirs n'étaient pas comme aujourd'hui, c'était comme de l'air impoli. Hein? Donc, ça donnait un reflet, mais c'était sombre, c'était plus sombre. Il dit, « Maintenant, nous voyons comme à travers un miroir, d'une manière obscure. » Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie en parlant du Christ, mais alors je le connaîtrai comme j'ai été connu. Nous voyons et nous connaissons Jésus partiellement, incomplètement dans cette vie. Nous sommes limités par notre existence terrestre et nos corps humains. Nous sommes aussi aux prises avec une nature pécheresse, un monde hostile et un ennemi hargneux qui viennent tous nous causer des ennuis dans notre relation avec notre Père aimant et bon. L'espérance que contient l'Évangile consiste en la promesse d'une relation épanouie, sans entrave, complète, face à face et éternelle avec lui. Amen. Oui, Jean-Claude? Oui. Mm-hmm. Oui.
De ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance, il dit, c'est ma consolation dans ma misère. Il parle de sa misère humaine, on en a tous une. Hein? Il dit, car ta promesse me rend la vie. Dans les plus difficiles épreuves, tous ceux et celles qui ont cru à cette promesse-là, jamais les épreuves peuvent enlever cette espérance-là. Parce qu'elle vient de Dieu, il le mentionne bien.
Amen. Gloire à Dieu. Merci, Jean-Claude. Le psaume 119, quel verset? 49 et 50. Excellent. La Bible regorge de versets sur l'espérance et c'est un thème qui est méconnu. Alors, on pourrait se poser la question, quand cela arrivera-t-il? De quelle façon Dieu se prendra-t-il? Dans quelles circonstances? Là, je vous invite à tourner dans l'Apocalypse, au chapitre 21. L'Apocalypse qui veut dire la révélation des choses cachées. Et qui traite des choses à venir. Et on va lire dans le chapitre 21. La dernière fois, dans les chapitres 19 et 20, on a vu que le Christ revenait et il établissait son règne sur la terre pour 1000 ans, que Satan devait être enchaîné pendant 1000 ans et qu'il allait établir son règne. À la fin de ces 1000 ans-là, Satan est libéré, incite toutes les nations à faire la guerre contre Jésus à Jérusalem, mais Jésus remporte la victoire et on procède ensuite au jugement dernier. Ça, c'est au verset 11. Et puis après ça, on arrive au chapitre 21. Comme j'ai dit tout au long de cette série, mon but, ce n'est pas d'aller en détail dans les choses de l'eschatologie. Ce n'est pas un cours sur l'eschatologie, OK? Si ça vous intéresse, il y a des livres qui sont écrits là-dessus. Il y a des cours qui se donnent. Ce n'est pas le but de la série sur l'espérance. Mais il faut toucher quand même à ces choses-là, de l'eschatologie, des choses de la fin. OK? Fait qu'on arrive au chapitre 21 de l'Apocalypse. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparus. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif. Je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. » Donc, Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce n'est pas une notion qui est nouvelle dans la Bible. On voit dans les prophètes, déjà Ésaïe, Il dit au chapitre 67, verset 17, « Je vais créer un ciel nouveau, Dieu dit, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses d'autrefois, on n'y pensera plus. » Ensuite, dans les psaumes, psaume 102, verset 26 à 29, « Tu as jadis fondé la terre, le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit, comme on remplace un vêtement. Tu les remplaceras, mais toi, tu es toujours le même. Les années, tes années ne finiront pas. Les enfants de tes serviteurs auront une demeure sous ton regard. » En effet, cette création actuelle disparaîtra par le feu. Et pour ça, je vous invite à tourner dans 2 Pierre, juste un peu avant l'Apocalypse, dans 2 Pierre, au chapitre 3. De Pierre, chapitre 3, au verset 3. Et je vais lire dans la version sommaire. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant, « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Mais il y a un fait que ces gens-là oublient délibérément, c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il a rassemblé du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'auront aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devrez être attaché à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Amen. Les gens, surtout les scientifiques, se moquent de la position des chrétiens qui soutiennent que la terre a été créée par Dieu. Une des choses sur lesquelles ils se basent pour se moquer de cette foi-là, c'est qu'ils disent, comme on a lu dans le passage, « Tout a toujours été de la même façon, toujours, toutes choses ont continué de la même façon. » On le voit ici dans le texte. Pierre, il dit « Sachez que dans les derniers temps, des moqueurs viendront et ils vont dire « Ben, il a promis à venir, où est-ce qu'il est, tu sais? Puis depuis que le monde est monde, rien n'a changé, tout continue, au verset 4, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est en partie ceci. C'est que les scientifiques, je vais faire une parenthèse, les scientifiques se basent sur ce qu'on appelle l'uniformatisme, c'est la croyance, c'est une croyance, que toutes choses ont toujours continué de la même façon, au même rythme. L'uniformitarianisme, pardon. Et Par exemple, pour dater quelque chose, ils vont se servir de la désintégration des atomes radioactifs. Hein? Carbone 14 vers carbone 12. Ou d'autres, l'argon radioactif, il y en a plein là. Okay? Puis, puisqu'on connaît le taux de désintégration de ces atomes-là, on sait, en mesurant les éléments dans le sol, on peut deviner, on peut calculer leur âge. Mais c'est basé sur une présomption que cette dégradation, cette désintégration a toujours procédé au même rythme. Je vous donne un exemple. Vous êtes chez vous et vous voyez arriver votre ami du coin de la rue chez vous, et sachant que l'être humain marche à environ 5 km à l'heure et qu'il est parti de Montréal, qui est à 500 km, tu t'exclames en le voyant, mais ça t'a pris 100 heures pour venir chez nous. Il dit, ben non, pas du tout. Ben oui, tu marches à 5 km/h, c'est à 500 km, ça veut dire que ça t'a pris 100 heures venir chez nous. Ben non. Ben oui, c'est scientifique. Tu peux pas argumenter avec ça, c'est scientifique. Mais il dit, ben oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai conduit de Montréal jusqu'au coin de la rue où j'ai stationné mon véhicule. Et j'ai conduit à 100 km/h. Ah, OK. Fait que moi, je t'ai vu arriver à 5 km/h, mais avant ça, tu étais à 100 km/h. Ben oui. Fait que ça ne t'a pas pris 100 heures, ça t'a pris 5 heures et 5 minutes. Eh oui. C'est la même chose. Les scientifiques qui datent les rochers, qui datent les fossiles, se basent sur l'idée que, mettons, le carbone 14 se dégrade à tant de vitesse par année vers le carbone 12. Ils mesurent le carbone 12 versus le carbone 14, ils font un calcul, ils disent ça a des millions d'années. Mais on ne sait pas que le taux a toujours été constant. Il n'y a personne qui est capable de prouver ça. Et en fait, il semblerait que si on exerce une grosse pression, une grosse chaleur sur ces éléments-là, le taux va accélérer. Mais les gens se moquent de la position que Dieu a créée la Terre basée sur la science. Et ils créent une fausse dichotomie entre la science et la foi. Une fausse dichotomie. Une dichotomie, c'est quoi? C'est opposer deux choses entre elles, deux choses qu'on dit qui sont opposées. Et c'est t'es soit pour la science ou t'es soit pour Dieu. Désolé, moi je suis scientifique, j'aime la science et je crois en Dieu. Et c'est possible. Mais on vit ces temps-là que Pierre nous dit qu'ils vont arriver, et c'est une des choses, c'est l'une des raisons qu'on peut affirmer qu'on arrive à la temps des fins, au temps de la fin. Et vous savez quoi? Le Big Bang, ça existe dans la parole de Dieu. Ça existe dans la parole de Dieu, mais pas au début, à la fin. Le Big Bang, les scientifiques ont calculé puis ont présumé certaines choses puis disent ah, l'univers a commencé par un Big Bang. C'est extrêmement controversé. Il y a des choses qui sont manquantes dans ce modèle-là. Ça, ils n'en parlent pas. Ça ne fonctionne pas. Mais ils croient. Mais ils ne veulent pas croire, à l'inverse, qu'il va y avoir un Big Bang qui va terminer l'univers actuel. Mais c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Et qu'est-ce que toute cette révélation devrait faire dans ton cœur et dans le mien? Pierre, il dit ici, on va conclure avec ça, premièrement, c'est de m'amener à vivre une vie sainte, ça veut dire à part du péché, et d'être attaché à Dieu. Parce que cette création va passer au feu. Je vais te poser une question. Si tu savais que demain, ton bloc appartement va passer au feu, ton chalet va passer au feu, ta maison va passer au feu. Si tu le savais, là, est-ce que tu y investirais autant de temps, d'énergie et tout ça pour le rendre beau? Et pourtant, on s'accroche à ces choses-là, moi inclus. On s'investit dans ces choses-là. On perd notre temps dans ces choses-là. On perd notre temps à construire notre petit royaume, comme on a déjà vu, au lieu de s'attacher au royaume de Dieu. Et on oublie d'attendre avec hâte sa venue. Pierre, il dit ici, à la fin du texte, il dit, sachant ces choses, hein? Verset 11, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. On a déjà vu l'image d'Hachi, le chien qui attendait son maître à tous les jours, là, sur le bord de la voie ferrée. Là. J'espère que c'est resté dans votre tête, cela. Là. C'est comme ça qu'on devrait être. Puis quand on attend quelqu'un avec hâte, là, ça exclut toutes sortes d'autres distractions. Là. Le chien, les gens venaient le flatter, non. Le chien, tu sais, il pouvait voir des écureuils, non. Il était attaché à la venue de son maître, il attendait ça, puis ça le détachait automatiquement des autres affaires. Ça l'amenait à vivre une vie consacrée, une vie sainte. Et c'est ça que l'espérance fait pour nous aussi, frères et sœurs. C'est que plus on s'attache à l'espérance, ça a un élément purificateur sur nos vies. Ça nous amène à nous sanctifier, nous détacher des distractions du monde. Parce que Jésus vient. Moi, j'attends Jésus, là. C'est lui le trésor de mon cœur. Amen. Puis, finalement, se réjouir de la perspective de contempler sa gloire, comme on a vu, et de vivre dans l'intimité avec lui pour toujours. Ma phrase sommaire, j'ai oublié de vous la donner au tout début, je vous la donne maintenant. Dieu veut répondre à l'aspiration profonde de ton âme en t'offrant d'habiter pour l'éternité en sa présence, pour contempler sa gloire et jouir d'une relation d'intimité avec lui. Si tu n'as pas de relation avec lui, aujourd'hui, tu ne l'auras pas plus. C'est aujourd'hui le jour du salut, nous dit la Bible. C'est aujourd'hui qu'il faut se tourner vers Jésus. Après la mort vient le jugement. C'est aujourd'hui qu'il faut se mettre en règle avec Dieu. Si tu n'as pas cette assurance d'être en règle avec Dieu, si tu n'as pas cette connaissance de Jésus comme sauveur personnel de ton âme à toi, là, parle à quelqu'un ici ce matin. Viens nous voir. Parce que Dieu veut te donner à toi aussi cette espérance. Prions. Seigneur grand Dieu, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, qui règne, roi de l'univers, toi qui as tout créé, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas, les lois immuables et éternelles de la nature, invisibles, qui régissent la nature, c'est toi qui les as créées. C'est toi qui as tout donné. C'est toi qui nous donnes le mouvement et l'être, le souffle de vie. Et pourtant, Seigneur Dieu, chacun de nous, comme nous dit ta parole, s'est détourné de toi comme une brebis errante, au point de ne plus te connaître, de ne plus te reconnaître. On t'a offensé par nos pensées, par nos actions. Mais dans ta grande bonté, dans ton grand amour, tu as envoyé Jésus pour prendre sur lui nos fautes et tu nous offres la réconciliation et une éternité avec toi. Merci pour cet évangile, cette bonne nouvelle et cette promesse d'être en ta présence glorieuse. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir exprimé dans ta prière, « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi pour contempler ma gloire. » Merci, Jésus, parce qu'on sait que cette requête sera assurément répondue, réalisée. Père, donne-nous par ton esprit sagesse et révélation pour comprendre, pour saisir cette espérance. Je prie, Seigneur, que cette espérance descende dans le cœur de chacun de mes frères et sœurs, de mon cœur, de plus en plus, et qu'on soit dans l'attente, hâtant ta venue, Seigneur Jésus. Que nos cœurs soient comblés de joie et de paix par notre confiance en toi et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez besoin de prière ou de jaser, on est là en avant, venez nous voir. Ça nous fera plaisir de vous écouter. C'est confidentiel. Bonne soirée.